Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Francophone au Canada, c'est ainsi.
La communauté est enragée, est fâchée.
C'est une claque dans la face qui donne à la population francophone de l'Ontario.
Ben, sans crise, ben nous autres, bon dire en bon français.
L'arrivée de nouveaux gouvernements dans certaines provinces bouscule les services en français.
Nous allons nous battre pour notre université francophone et nous allons gagner!
On assiste présentement à l'une des plus grandes mobilisations de la francophonie canadienne. Pourtant, entre francophones, on est encore loin de se connaître.
Tout est autour de Montréal, tout est autour des représentations québécoises.
En fait, il y a 1 million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec.
Là, tout à coup, on sent qu'il y a une volonté de se réunir.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie, et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires, et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre, pour faire changer les choses.
J'ai des amis hollandais. J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, bravo!
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello?
Bonjour!
Tant que la terre sera ronde.
Ici,
tour du monde,
là-bas,
voir d'autres êtres humains,
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI,
RFI,
on en fait RFI. Tout un monde.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CUT 89,5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la Semaine de la Francophonie de Toronto, popourichaud.com ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de parole, le salon du livre de Niagara avec Sophie Franc, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Educ Nation Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Welcome, 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 bienvenue à Popourri Show, madame, monsieur, où que vous soyez à travers la planète. On vous dit bien le bonjour, un bonjour chaleureux de la belle ville de Toronto, et ça parle français bien sûr. Édition spéciale dans le cadre du mois de la francophonie, 50 ans de francophonie institutionnelle, un événement planétaire. Et 50 ans après, comment se porte la francophonie chez vous, dans votre maison, dans votre milieu? Au Manitoba, bientôt, à l'émission. Eh oui, il y en a beaucoup qui nous écoutent à Montréal. Merci beaucoup d'être là, au Canada et dans le monde. Vous pouvez nous envoyer vos messages tout au long de l'émission et tout au long du mois à popourri@cut.fm. Le thème proposé cette année par le Centre de la Francophonie des Amériques, rapprochons-nous, rapprochons-nous, rapprochons-nous. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, seul à la commande, madame, monsieur, car Sloan Ballant est sur un projet, et oui, pour son travail, hein, il faut qu'il étudie ce monsieur, alors donc soyez patients avec nos étudiants, il y en a qui parlent que de la langue anglaise, la langue de Shakespeare, donc ne soyez pas affolés. Animation, réalisation, Eric Kader avec vous jusqu'à 13h dans la bonne humeur. Et vous pouvez nous écouter en ligne, bien sûr, www.cut.fm. Et bienvenue à la deuxième émission du mois de la francophonie. Nous avons reçu beaucoup de réactions la semaine dernière suite au passage. C'était de la directrice du CREFO. Il y en a qui en redemandent. Eh oui, Très positif, des encouragements incroyables. Merci infiniment du fond du cœur. Ça fait du bien d'avoir des réactions pareilles et aussi des suggestions. Nous poursuivons donc notre lancée avec nos partenaires d'exception et enthousiastes. Nous les remercions très chaleureusement. Le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, ils sont plusieurs professeurs qui ont répondu à l'appel. Pour ce mois, et oui, le CREFO de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, un grand merci. Le Collège Boréal, ça bouge, ils organisent des choses fantastiques avec des organismes partenaires qui pilotent la programmation de la Semaine de la Francophonie de Toronto. Allez sur notre site, vous allez avoir tous les liens, ou allez sur le site de Semaine de la Francophonie Toronto.com. Le département d'études langagières, ça c'est l'Université de Toronto, le campus de Mississauga, qui organise encore une fois cette année des activités époustouflantes grâce aux étudiants, mais aussi, je dirais, à la commande. Nous avons professeur Caroline Lebrec. Si vous nous écoutez, bonjour, bonjour, l'Université de Toronto, le campus de Mississauga, le campus de Scarborough, de Saint-Georges, ici au centre-ville. Vous êtes bien sûr parmi nos festivités et nous sommes très heureux de vous avoir, de vous recevoir. Et le département d'études françaises à l'université de Waterloo, ils seront à la radio jusqu'à la tout au long du mois. Alors Nicole Nolette, professeure, sera des nôtres avec une collègue. et puis les éditions Prise de Parole qui nous offrent justement ce florilège de littérature francophone de l'Ontario, si riche. Et merci beaucoup aux éditions Prise de Parole. Et je vous rappelle que tous ces gens financent, participent financièrement à cette émission. Et c'est comme ça qu'on peut tailler des jingles, des spots publicitaires professionnels pour vous. Tout ce beau monde vous propose, madame, monsieur, tout un programme fascinant pour célébrer en beauté la diversité de la francophonie de Toronto. Un bonjour spécial à nos amis qui nous écoutent en Italie. Et bien sûr, notre cœur est avec vous, les Italiens. Ils sont plus de 16 millions cloisonnés. Ah oui, c'est terrible ce qui est en train de se passer avec ce coronavirus. Et je vous recommande de visiter notre site tout au long de la semaine pour avoir le calendrier, les biographies de nos invités, mais aussi quoi faire. Il y a des spectacles, il y a toutes sortes d'activités très, très intéressantes, madame, monsieur, tout au long du mois. Allez sur popourrishow.com. Vous pouvez aussi télécharger les émissions quand vous le voulez ou que vous soyez. Alors, au menu, en ce dimanche 8 mars, bien sûr, nous souhaitons une belle journée internationale des femmes à toutes les femmes, surtout celles qui militent pour les droits des femmes au Canada et dans le monde, et plus particulièrement dans les pays qui bafouent les droits et la liberté des femmes. L'édition 2020 de la Journée internationale des droits des femmes célèbre aujourd'hui, en ce 8 mars, a pour thème « Je suis de la génération égalité ». Levez-vous pour les droits des femmes. Ce thème coïncide avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle de l'ONU des femmes, Génération Égalité, qui marque le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Brève escale à Paris avec le magazine 7 milliards de voisins, présenté par ma collègue Emmanuelle Bastide de Radio France Internationale. On parle de femmes entrepreneurs en partenariat avec le magazine 7 milliards de voisins. Et plus près de nous, notre invité journaliste d'enquête a réalisé un excellent reportage sur la maison d'hébergement des femmes francophones à Toronto, à lire ou à écouter absolument. Qui est cet invité de Radio-Canada? Oui, bien sûr, je parle de Radio-Canada, vous nous écoutez. Je vous laisse languir. Toujours dans la même veine, notre grand ami de la radio, Eddie Bouraoui, professeur émérite, auteur, poète, celui qui aime jongler avec les mots, lance, tenez-vous bien madame, son dernier livre à Tunis, en Tunisie, aujourd'hui, Journée internationale des femmes, et le titre que j'aime bien, Tunisie Flash. C'est un livre de toute beauté, plein de recueils, de poèmes, célébrant la femme tunisienne. Tunisie Flash, aux éditions du Centre Canada Méditerranéen. Le lancement organisé, présenté par Elisabeth Amani à Tunis. Et toutes nos félicitations au professeur Eddie Bouraoui, que j'espère nous aurons bientôt pour parler de ce dernier livre. Bravo, il bouge. Il écrit sans cesse, sans arrêt, à la retraite. Bonjour professeur Bouraoui, et qu'est-ce qui se passe juste sur les campus de l'Université de Toronto? On parle de l'Université de Toronto, oui, bien sûr. Une nouvelle recrue, une nouvelle voix, Sophia Bello, elle est chargée de cours en linguistique française au département de français à l'Université de Toronto, campus Saint-Georges, professeur, bienvenue dans la belle équipe de Popourri Show. J'espère un jour vous voir en chair et en os, dans notre studio. Et oui, le coronavirus se propage un peu partout dans le monde, malheureusement. Et encore une fois, mes pensées à ma famille à Turin et aussi à tous nos amis italiens, mais aussi français. Alors, connaissez-vous justement l'origine du mot coronavirus? Quelle est la traduction du mot cluster? On entend ça dans les conférences de presse à la journée longue, en français, hein? Cluster. Quelle est la traduction exacte? Envoyez-nous un message uniquement popourri@cut.fm. L'humeur de Linda, TV5 Monde, sera des nôtres pour nous expliquer tout ça. Et puis, il y a une conférence qui s'organise, ça se passe au Créfaux, et qui vous invite à la conférence « Apprentissage et langue de scolarisation, défis et pistes didactiques en contexte d'allophonie et de minorisation linguistique ». C'est le 12 mars à 17h, 252 Blour au Créfaux. Nous aurons le plaisir de recevoir la conférencière Carole Fleuret, professeure en didactique des langues secondes à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle nous écoute en ligne. Bonjour, professeur, et bienvenue dans le Popourri Show. Et à croire que j'aime les failles, qui a dit ça? Qui a dit quoi? À croire que j'aime les failles, c'est aux éditions Prise de Parole. C'est le tout dernier livre du professeur Sylvie Bérard. Elle enseigne la littérature des Premières Nations et de la littérature franco-canadienne à l'Université Trent. C'est à Peterborough, un peu vers l'est de Toronto, n'est-ce pas? Ses recherches et travaux portent sur la littérature autochtone, le monde queer, qu'est-ce que ça veut dire queer, et la science-fiction. Elle a remporté le prix de poésie Trillium pour son recueil Oublié. Eh oui, y a-t-il une littérature queer que me demande une étudiante ici? Et puis les journalistes d'enquête connaissent de plus en plus un succès incroyable auprès des citoyens qui cherchent vérité et justice. Ils permettent à nos lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices d'apprendre des choses que plusieurs aimeraient tenir loin de leur regard. Et oui, aujourd'hui et pour la première fois, Popourri Show va à la rencontre d'une journaliste de Radio-Canada qui avait levé le voile sur la passerelle ID, vous vous souvenez, et la Société économique de l'Ontario qui a dû congédier le cadre René Viau. Natacha McDonald-Dupuis sera des nôtres. Elle porte plusieurs casquettes. Elle est journaliste d'enquête, trilingue, Radio-Canada. Et on parlera avec elle pour voir un peu ce qui se passe. Je pense qu'elle est aussi nominée à un prix. J'ai vu ça quelque part. Et puis, invitation à la grande dictée de Gabriel Roy. Un événement, j'étais pour dire planétaire. Oui, peut-être. Non, c'est des Amériques. Un événement des Amériques, l'Amérique francophone, qui se branche sur la troisième édition de la dictée Gabriel Roy. Ça se passe le jeudi 19 mars à l'Alliance française de Toronto, mais aussi au campus de Mississauga, sur écran géant en direct de la maison de Gabriel Roy à Winnipeg. On en parle avec monsieur le directeur du marketing de l'Alliance française de Toronto, monsieur Christophe Plantivaux. Bonjour et bienvenue dans le Popourri Show. Et oui, on en parle tout au long de l'émission. Et puis on nous écoute à New York, à Washington, à Montréal. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de vous présenter un jeune artiste rappeur de Montréal, plus précisément à Verdun, près de Ville Salle, que je connais bien. Ce jeune possède non seulement un grand talent pour le rap, mais aussi de grandes aptitudes en danse et en théâtre. Miles Barnes, ouais, francophone, collaboration spéciale de Hydrophonic Records, nouvelle maison de production destinée à la promotion de musique urbaine québécoise. Merci, merci mille fois. Et enfin, répondez à notre question du jour et courez la chance de gagner des œuvres littéraires ou un repas à la brasserie Gare de l'Est, où c'est le meilleur, meilleur brunch du siècle. Eh oui, c'est dans le quartier Leslieville à Toronto. Le chef sera des nôtres, Steph, très prochainement. Connaissez-vous votre francophonie, madame, monsieur? Alors, c'est la question du jour. Répondez, s'il vous plaît, si vous voulez gagner des prix. Et là, je lance un appel à des jeunes des trois campus. On dit souvent, les jeunes étudiants, les jeunes universitaires, ils ne sont pas très intéressés aux médias francophones, aux émissions, aux activités francophones. Je lance un défi à tous ces jeunes des trois campus de l'Université de Toronto, ou des jeunes en général, si vous avez en 18 ans et 25 ans, vous êtes jeune, 18 ans, 35 ans, vous êtes toujours jeune. Connaissez-vous votre francophonie canadienne? Une seule province canadienne est officiellement bilingue. De quelle province s'agit-il? Eh oui. A. Nouveau-Brunswick. B. Le Québec. 3. L'Ontario. D. Alberta. Je répète, il y a une seule province au Canada qui est officiellement bilingue. S. A. Le Nouveau-Brunswick. B. Le Québec. C. L'Ontario. Ou D. L'Alberta. Envoyez-nous votre réponse à popourri@cut.fm et je vous souhaite bonne chance. Et oui, nous avons reçu beaucoup de réactions lors du passage du docteur professeur Emmanuel Lepichon-Wortmann, directrice du CREFO. Les auditeurs en redemandent. On aime beaucoup le sujet de diversité, hein, dans l'éducation. En dernière heure, nous apprenons que le professeur Joël Thibault de l'Université d'Ottawa est intéressé à passer à la radio avant la fin de ce mois. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Jean-Michel Baudry, directeur général adjoint de la Société de la francophonie manitobaine, et sera des nôtres aussi. Les gens nous écoutent en direct actuellement. Donc, madame, monsieur, je vous souhaite un bon mois de la francophonie. Que toute la diversité de la francophonie règne sur votre fréquence. Merci. Allez. Et oui, on jongle avec les mots. Le rap. Le rap français, j'adore ça. L'Alliance française de Toronto vous invite, madame, monsieur. Allez, soyez prêts avec vos stylos. Vous êtes prêts pour la belle dictée, la grande dictée, troisième édition. Gabriel Roy, organisé le jeudi 19 mars sur le continent américain. Et cette année, l'Alliance française de Mississauga, le campus de Mississauga, accueillera les participants, les participantes. Vous avez jusqu'au 15 mars. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un message à mississauga@alliance-française.ca ou encore téléphoner au 905-272-44-44 ou aller sur le site de l'Alliance française de Toronto pour tout savoir ou sur notre site popourichaud.com. Et nous allons recevoir justement un des directeurs, le directeur de marketing, monsieur Christophe Plantivo, qui sera des nôtres. Il est de l'Alliance française de Toronto et il sera là avant la fin de l'émission. D'ailleurs, il co-animera l'émission avec moi pour terminer l'émission en beauté, deuxième édition. Allez, je vous invite à participer en grand nombre à cette grande dictée. La Maison Gabriel Roy, l'Alliance française du Manitoba et la Bibliothèque Gabriel Roy de Québec qui présentent la troisième édition de la dictée Gabriel Roy, organisé le jeudi 19 mars. Voilà, le message est passé.
S'il vous plaît, jeunes gens, s'il vous plaît, silence. Suite à l'absence de Madame Goubert, hein, votre professeur de français, c'est donc moi, votre professeur de sport, hein, qui va assurer son remplaçage. Hein. Alors,
ça commence bien.
C'est moi qui ai corrigé les dictées, et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que les notes sont pas géniaux. Hein. Génial, non, on ne dit pas génial. Hein. J'ai dit que les notes étaient pourrites, donc on ne dit pas c'est génial. Hein. Ok, tu comprends? Allez, on y va, parce que maintenant, hein, faut m'écouter. Hein, c'est comme moi qui ai corrigé la dictée, donc je suis le dictateur. Hein. Bien, alors, on va pas y aller par quatre chemins. Hein, hey, les gars, l'orthographe, c'est important. Hein, faut pas la négliger, l'orthographe. Pourquoi faut pas la négliger? Parce que l'orthographe, par exemple, une phrase avec des fautes, hein, c'est un petit peu comme une femme mal habillée. On la regarde, mais c'est pas beau. Hein, d'accord? Il y a l'orthographe, c'est important, mais il n'y a pas que l'orthographe, hein, évidemment. Il y a la conjugaison, par exemple. La conjugaison, c'est important. La conjugaison, c'est comme une femme. C'est pareil. Hein. Il est impératif de lui faire des présents pour être plus que parfait dans le futur.
Vous écoutez? Vous allez apprendre quelque chose. Alors, c'est parti. On y va. L'Afrique francophone,
la République du Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi, le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale.
Mois de la francophonie, 50 ans de francophonie institutionnelle. 50 ans après, comment se porte la francophonie à Toronto, au Canada et dans le monde? Un événement planétaire. Et je vous souhaite bien sûr un très bon mois de la francophonie. Et le thème proposé par le Centre de la francophonie des Amériques cette année, rapprochons-nous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois une nouvelle voix. Elle est chargée de cours en linguistique française au département de français à l'Université de Toronto, campus Saint-Georges. Et elle va nous présenter avec
beaucoup de professionnalisme, n'est-ce pas? Et avec un peu de sourire dans la voix. Oui, vous êtes prêts? Nous allons accueillir professeur Sophia Bello. Allez, bonjour professeur Sophia Bello, je vous souhaite un bon mois de la francophonie et aussi bonne journée des femmes.
Merci beaucoup Eric, comment ça va?
Ah ben oui, ça va bien, comme vous voyez, nous avons le soleil dans la voix.
Oui, c'est fantastique dehors.
C'est très important, n'est-ce pas? Alors, oui. Vous avez un curriculum vitae très impressionnant. Je ne savais pas qu'il y avait des perles rares sur le campus Saint-Georges. Pourtant, j'y suis, je fréquente ce campus régulièrement. Alors, félicitations, vous faites un beau travail et c'est grâce à votre collègue, professeur Lebrec, Caroline Lebrec, que nous avons fait cette belle découverte et on vous souhaite la bienvenue, professeur.
Merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui se passe justement dans le cadre de la semaine de la francophonie sur les campus?
Alors, on a plusieurs événements en tête. Le premier, le concours oratoire, c'est le premier événement qu'on a et on essaye de cette façon aussi d'inclure nos étudiants du campus Saint-Georges qui comptent participer aussi, de faire des pitchs de 5 minutes sur les diversités de la francophonie, que ce soit culturel, gastronomique, en art, ainsi de suite. Et ça aura lieu le 16 mars. Alors, on commence la semaine avec cet événement, ce concours, et on espère vraiment avoir beaucoup de participation des jeunes étudiants des deux campus.
Et là, je vous lance un défi que le gagnant ou la gagnante passe à l'émission pour présenter son texte.
Oui, exactement. Ça serait fantastique. Ouais. Et vraiment, on a vraiment hâte de voir comment ça se passera. Ouais. Et d'avoir vraiment un membre de jury aussi qui est un étudiant, et c'est une très bonne idée pour leur donner l'occasion de se mettre à notre place et de voir comment évaluer les participants.
Il faut dire aussi qu'il y a sur le campus de Mississauga une association qui s'appelle les étudiants francophones de l'Université de Toronto au Mississauga. Alors, ça, c'est très intéressant de voir que les étudiants ont formé cette association pour justement organiser de temps en temps comme ça des événements, des activités culturelles et en français.
Exactement. FUTM font beaucoup d'organisations, beaucoup d'événements et je vois vraiment la collaboration des étudiants qui participent, qui s'intéressent vraiment à faire tous ces événements autant que possible au-delà des cours de langue qu'ils doivent suivre. Mm-hmm.
Donc, ça, c'est le 16 mars de 5h à 19h, de 16h à 19h, voilà.
Oui.
5 à 7, comme on dit. Et le 18, vous avez une soirée des talents.
Oui, et j'ai eu l'occasion de participer moi-même il y a quelques années et ça m'a vraiment impressionnée de voir le talent de nos étudiants et vraiment de leur donner l'opportunité de faire quelque chose où ils sont un peu plus à l'aise et ça leur donne l'opportunité aussi de collaborer en dehors de la salle de classe et de montrer vraiment quels sont les talents qu'ils ont.
L'année dernière, j'avais ce bonheur d'être à présent. C'est comme si les Nations Unies, hein, chez vous.
Oui, exactement. Non, c'est vraiment fantastique. Et le rapport entre participants, que ce soit des étudiants ou des professeurs, me fascine vraiment.
Mmh. Alors, et le 20 mars, c'est la Journée internationale de la francophonie. Qu'est-ce qui se passe cette journée-là chez vous?
Alors ça, j'ai vraiment hâte d'écouter les échanges qui auront lieu avec les étudiants au Heart House et de vous voir aussi en tant qu'animateur pour conclure cette merveilleuse semaine de la francophonie. Oui.
Alors, vous allez recevoir Adrian Vol. Et les représentants du monde de l'éducation au Théâtre français de Toronto. Il y aura aussi Lorraine Côté, qui est directrice du Centre communautaire francophone de Mississauga, le Cercle de l'amitié, très connu dans la francophonie. Et je rappelle aux gens qu'il va y avoir aussi sur le campus de Scarborough une conférence, des présentations des étudiants, des partenaires de la communauté francophone. Et l'invité d'honneur sera Nathalie Desrosiers. Elle est principale de Massey College et elle est avocate et ancienne politicienne, très très connue d'ailleurs dans le monde de la francophonie. Et le titre de sa conférence, l'avenir des droits linguistiques en Ontario, et c'est ouvert au public. Ça se passe le 20 mars sur le campus de l'université de Scarborough. Cela vous intéresse? Et c'est de midi à 14h. Et donc, c'est très intéressant tout ça.
Oui, c'est vraiment ça. ça me surprend vraiment et on continue à ajouter ces événements chaque année. Et on espère, bien sûr, même avec le concours, d'incorporer ceci à travers les trois campus dans les années à suivre.
Oui. Et votre collègue, professeure Corinne Bocchi, qui est formidable,
oui.
Elle enseigne la littérature haïtienne et québécoise sur le campus de Scarborough, sera des nôtres la semaine prochaine. Elle vient de confirmer, donc on est très, très heureux de l'accueillir pour parler de cette activité à l'émission. Et vous aussi, chère Sophia, vous êtes toujours la bienvenue hein, pour co-animer l'émission avec
merci.
Moi.
Oui, non, vraiment, merci beaucoup, Eric. Et puis, on aura l'opportunité de se reparler aussi le 22 mars.
Oui.
Je vais mettre le point sur tous les événements qu'on a eus jusqu'à présent, suivant la semaine de la francophonie, et en espérant vous rencontrer aussi bientôt.
Oui, et il y a un monsieur qui s'appelle Benoît qui nous envoie un message, qui nous dit, est-ce que la professeure pourrait nous dire ce que signifie cette expression, se faire prendre pour une valise?
Oh, se faire prendre pour une valise. Je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre cette expression.
Oui.
Alors, se faire prendre par une valise.
Oui, oui. Je vais poser la même question aux autres invités. C'est ça, les expressions de la francophonie. Elle est tellement riche, cette francophonie,
alors,
n'est-ce pas?
Oui, alors je dirais peut-être que quelqu'un nous joue un tour, peut-être. Alors, se faire prendre par quelqu'un.
Alors, j'ai aussi lancé le défi à tous les étudiants de participer à notre question du jour. Pour voir justement ces écoutes de la radio, parce qu'on va offrir des cadeaux très particuliers aux étudiants qui participent et qui nous donnent la bonne réponse, c'est-à-dire quelle est la province bilingue, officiellement bilingue au Canada? Est-ce le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et l'Alberta? Ne répondez pas, laissez les jeunes répondre. Et donc, j'ai hâte de voir la réaction et les réponses. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, professeur Sophia Bello, pour ce mois de la francophonie et la Journée internationale des femmes?
Oh, que tout le monde soit très content et que tout le monde participe autant que possible pour se réjouir pendant ce mois.
Je vous invite à participer nombreusement, madame, monsieur, aux activités de professeur Sophia Bello. Voilà, on vous applaudit. Passez une bonne
merci,
journée. Au revoir.
Merci chaleureusement. Au revoir.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire, Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook, Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM au Pourri Chaud. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligents. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
À tous les francophiles,
de toutes les couleurs et de toutes les origines,
vous êtes plus de 200 millions dans le monde,
comme une grande famille.
Je vous aime.
C'est une langue. Choisis.
On va discuter.
On aime les mots.
On va s'amuser.
C'est des moments humains, c'est des moments sympas.
Et il y aura de la folie.
Une certaine dinguerie.
Vibrez pour la langue française.
Au premier comme au second degré.
Bonjour sur les mots.
Rendez-vous sur TV5 Monde.
Avec plaisir.
TV5 Monde, partenaire de la semaine de la langue française et de la francophonie. Retrouvez notre programme.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on me porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques, ou Moreau, nous, qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous, qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls, nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Ça sert ? Ça veut dire quoi ça ?
Pourquoi c'est comme ça ?
C'est où ?
C'est qui lui ?
Un jour, une question. Pourquoi existe-t-il une journée de la femme ? La première raison est historique. C'est le 8 mars 1917 que les femmes russes obtenaient le droit de vote. Dans la ville de Saint-Pétersbourg, des ouvrières ont fait grève pour lutter contre le pouvoir du tsar et demander du pain et la paix. En ce temps de guerre, des milliers de soldats étaient morts au combat. Et la société avait grand besoin des femmes pour fonctionner. Les ouvrières ont été écoutées. Le tsar a abdiqué et le nouveau gouvernement a accordé aux femmes le droit de voter. Bravo les femmes! En France, les femmes ont eu le droit de voter et d'être élues en 1944. Avant, aucune chance pour elles d'accéder au pouvoir politique ou de devenir présidente de la République. Ces exemples montrent que les droits des femmes sont en retard sur ceux des hommes. Le 8 mars est l'occasion de réfléchir aux moyens de rattraper ce retard et d'arriver à l'égalité des droits et des chances pour tous, hommes et femmes. En 1977, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a déclaré officielle la Journée internationale des femmes. Quand on sait que le but de l'ONU est de maintenir la paix, on comprend la raison d'une telle journée. Faire progresser les droits des femmes, c'est faire progresser la paix. Car si une partie de l'humanité, en raison de son sexe, sa religion ou ses origines, est maltraitée, la paix ne peut pas exister. Mais le monde change. En 1920, les États-Unis accordaient le droit de vote aux femmes. Moins de 100 ans après, en 2016, Madame Hillary Clinton pourrait bien gagner les élections présidentielles américaines.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popouri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat au féminin. En France, 4 entrepreneurs sur 10 sont des femmes. Mais par exemple, les startups dirigées par des femmes lèvent 50% de fonds en moins que celles dirigées par des hommes. Résultat, près de 8 femmes sur 10 financent leurs projets avec leurs seules économies. On retrouve ces difficultés pour les femmes presque partout dans le monde. Alors comment expliquer et dépasser ces freins? Nous allons en parler avec nos invités. Bonjour Marie-Éloi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes présidente et fondatrice de Bouge ta boîte, un réseau qui vise à aider les entrepreneuses de tous horizons d'ailleurs, à mieux développer leur structure grâce à l'entraide féminine. Vous allez nous raconter comment fonctionne ce réseau. Pour certains auditeurs qui ont une bonne mémoire, ils se souviendront peut-être avoir entendu votre voix. Vous avez dans une autre vie été journaliste pour RFI. Vous nous raconterez aussi comment vous êtes tombée dans l'entrepreneuriat. Marie-Alix de Puter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneuse. Alors là, vous tentez plutôt de mettre en place un réseau de femmes business angels, c'est-à-dire des femmes riches, financeuses d'entrepreneuses femmes. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, ce réseau entre femmes pour trouver des financements. Et on le sait, le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre pour tous les entrepreneurs, mais encore davantage pour les femmes. On sera également en ligne avec Mamisa Nzigiré Poindron, qui est congolaise. Elle est fondatrice de l'agence Privilège à Kinshasa en RDC. Et quant à vous les voisines, surtout appelez-nous dès maintenant, on attend vos questions, vos témoignages entrepreneuses. Comment vous vous sentez considérée par votre entourage? Quels sont vos problèmes au quotidien aussi liés à votre condition de femme? Appelez-nous, ne laissez personne d'autre parler à votre place. Le numéro de téléphone, c'est aussi un numéro de téléphone gratuit sur WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. On attend vos appels.
Et oui, madame, monsieur, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, aujourd'hui se déroule à Tunis le lancement du livre Tunisie Flash du professeur Eddy Bouraoui, coïncide avec la Journée internationale des femmes. Et nous aurons bien sûr l'occasion de rencontrer professeur Bouraoui très prochainement. L'édition 2020 de la Journée internationale des femmes, droits des femmes, célébrée le 8 mars, a pour thème cette année « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Ce thème coïncide avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle d'ONU Femmes, Génération Égalité, qui marque le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Dans quel domaine les femmes entreprennent-elles? Et nous parlons brièvement, un petit témoignage du magazine 7 milliards de voisins avec Mamisa Nzigiré Poindron, fondatrice de l'agence Privilège, qui est à Kinshasa en RDC.
Sur l'investissement, on se rend compte que les femmes ont accès, notamment en Afrique, à 6 fois moins de financement que les hommes, alors qu'elles sont celles qui remboursent le plus tous les prêts qu'elles perçoivent. Donc déjà en termes de rendement économique, si on se limite strictement au langage business, il est plus intéressant d'investir dans une femme que dans un homme. Déjà,
donc, clairement.
Voilà.
Donc, y compris pour le microcrédit.
Hein, pour le microcrédit. Et en fait, l'échelle qui manque souvent, c'est comment je fais pour passer un cap. Et ça, c'est vraiment aussi important de parler de mentoring. Et on parlait tout à l'heure de motivation et pourquoi c'est important de discuter avec d'autres femmes qui auront peut-être réussi à faire ce que je n'ai pas réussi à faire à ce moment-là. Il y a le mentoring. Et moi, je dis souvent, ça ne sert à rien de mentorer quelqu'un qu'on ne sponsor pas. Donc, il y a la différence, c'est je mentor, donc je te donne des conseils. Je te sponsor, c'est je te recommande. Donc voilà, il est temps. Les femmes ont besoin à la fois de mentorat, mais aussi de sponsors et aussi d'investisseurs, parce que de toutes les façons, elles sont plus rentables que les hommes. Il faut le répéter et le répéter et le répéter.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CUT 89,5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la Semaine de la francophonie de Toronto, pocourishow.com ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions prises de parole, le salon du livre, le Niagara avec Sophie Franc, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, EducNation Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
À croire que j'aime les failles, à louer les tremblements, ériger en plaine ou en creux. La route n'est droite dans aucun sens. Ces accotements abîmes de souffle coupé, ces pentes vertiges renversées. Des accidents m'échouent sur le chemin qui mène. J'aimerais vous dire, je m'y retrouverai la prochaine fois.
L'autrice de ce texte est détentrice d'un doctorat en sémiologie de l'UQAM sur la science-fiction écrite par les femmes. Et notre invitée a trois passions, l'enseignement de la littérature, des Premières Nations et de la littérature franco-canadienne à l'Université Trent, l'écriture de romans, de science-fiction, de nouvelles et autres inclassables. La recherche est aussi parmi sa passion avec des travaux portant sur la littérature autochtone, le queer et la science-fiction. Elle a remporté, je vous rappelle, le prix de poésie Trillium pour son recueil Oublié. Et je vous rappelle qu'elle est actuellement avec nous. Et cette, le titre de son livre que nous allons parler, c'est « À croire que j'aime les failles » aux éditions Prises de parole. Mesdames et messieurs, nous accueillons avec plaisir pour la première fois professeur Sylvie Béra. Professeur Sylvie Bérard, bon mois de la francophonie et bonne fête des femmes.
Bonjour, un doublé aujourd'hui, merci, ou demain.
Oui, alors à croire que j'aime les failles, Sylvie Bérard dans le brouillard, c'est ainsi qu'un très grand quotidien francophone titré votre dernier livre. Êtes-vous dans le brouillard, professeur Bérard?
Ce n'est pas quel sens on donne au brouillard. Moi, le brouillard, j'aime bien ça, j'aime bien les nuits un peu. Moi, j'habite à Peterborough, alors sur la 115, il y a souvent du brouillard. Et quand c'est pas de mettre ma vie en danger, j'aime bien être un petit peu dans le brouillard. Cela dit, ce titre d'article, quant à moi, est très laid. J'avais l'impression de me faire crier des noms dans une cour d'école avec une mauvaise rime. Mais bon, on peut repasser très vite là-dessus.
Vous avez dit quelque part, j'ai besoin de cette poésie, de la difficulté où mes pronoms se confondent, où mon sujet se fait verbe, où il faut chercher à quoi ça rime. Et justement, on a toujours le goût de se creuser la tête pour savoir où ces textes mènent. On sent un mal-être chez vous, que disent certains. Hein. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ces propos?
Ben, je dirais pas un mal-être, quoique le recueil de poésie traduit une évolution, une histoire de la pensée queer. Ça commence de façon effectivement peut-être plus négative, mais plus ça en va, plus ça va, plus on s'en va vers la fête. Alors, peut-être pas un mal-être, autant qu'une espèce d'inconfort cultivé, pas dans le sens éduqué, là, mais un inconfort qu'on cultive, qu'on perpétue, parce que je trouve que c'est de là que les idées les plus intéressantes sortent, dans l'inconfort.
Alors, vous savez, quand on parle de poésie queer, pour les auditeurs, les auditrices qui ne sont pas si familiers avec ces mots, expliquez-nous justement cette culture, cette poésie, cette littérature, s'il y en a.
Ben c'est ça, je n'ai pas la prétention de faire la poésie queer. Justement, c'est quelque chose d'assez fluide, d'assez mouvant. Moi, je l'aborde un peu comme une posture et comme aussi de l'intérieur comme une identité, comme une façon de voir la vie d'une manière décentrée, d'une manière qui refuse, ou en tout cas même pas refuse, mais qui s'écarte un peu de la binarité des genres, de la binarité des identités. Donc une espèce de volonté de ne pas présumer que les identités sont les belles identités binaires qu'on nous a conditionnés à voir dans la société. Et donc la poésie, ben c'est un peu ça tout à l'heure quand je parlais d'inconfort, c'est l'idée, c'est de mettre un peu en danger dans la poésie, un peu d'essayer de cerner le sens, et puis peut-être aussi un peu de mettre le lecteur et la lectrice en danger. Parfois, vous avez, dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, la suite, c'était « je m'y retrouverai ou non ». Alors, il y a toujours cette incertitude-là. Est-ce que j'y suis? Est-ce que je n'y suis pas? Est-ce que le sens est là? Oui, est-ce qu'il serait peut-être juste à côté? Mais comme les mots ne sont pas parfaits, ils sont parfois aussi un peu défaillants pour aller avec le titre. Ils ont pas toujours la possibilité d'exprimer les identités comme on le voudrait et comme elles seraient ressenties.
À croire que j'aime les failles de Sylvie Bérard, qui est avec nous, madame, monsieur, dans le cadre de la Journée des femmes. Est-ce que, justement, dans cette Journée des femmes, il y a une identité aussi qui se raccole à des lesbiennes, des queers ou des gens qui vivent, justement, des situations, qui ont triple identité?
Je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'aborde aussi la réalité d'un point de vue féministe. Il me semble que ce n'est pas possible de ne pas être féministe. Je viens aussi d'une longue tradition où le féminisme, finalement, et le queer ou les identités gays, lesbiennes, avant que le mot queer se répande, étaient aussi étroitement liés. Ce constat que la société est patriarcale, il est venu un peu de partout où on n'était pas du côté dominant, justement, du côté dominant des identités. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Pour moi, le 8 mars, c'est quand même une journée où je fais pas toujours... parfois, je fais la fête, parfois, je suis plus tranquille, mais c'est une journée qui, pour moi, que j'aime me rappeler, là, parce que ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru, ça permet aussi de voir tout ce qu'il y a à faire encore. On pense, parfois on se dit, ah oui, bon là, je pense qu'on est rendu à un endroit intéressant. Et soudain arrive quelque chose comme arrive un débat et on se rend compte que, oh là là, tout le monde n'est pas exactement au même endroit et on regarde un peu ailleurs aussi dans la société. Ah oui, alors que moi, je me sens en sécurité, je regarde tout autour et puis je vois que il y a quand même des questions féministes qui sont très loin d'être réglées.
À la page 49 de votre recueil de poésie, que j'aime bien, hein, j'aime beaucoup la photo sur la couverture. C'est super. Alors, c'est aux éditions Prise de parole. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site de Prise de parole ou encore aller sur notre site pour avoir tous les renseignements sur la biographie de Sylvie Bérard, qui fait des choses très intéressantes. Hein. D'ailleurs, on ne savait pas qu'il y avait des études de francophonie ou en français dédiées pour les francophones à l'université Trent, à Peterborough. Alors voilà, c'est une découverte pour nos auditeurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler de vos recherches, mais aussi de tout ce qui se passe sur votre université. Alors, à la page 49, je lis « Je n'aurais pas été de leur sexe qui s'élance deux à deux des chairs. Je ne les aurais pas tenus dans une main puis l'autre, comme si on ne pouvait les saisir à la fois. Mes os ne se divisent pas à pile ou face?
Oui.
Je trouve ça fabuleux. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce texte?
Ben, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, il y a ce rejet, mais c'est pas un rejet, c'est pas bon, à gauche, je vais rejeter quelque chose, mais comme une espèce de sentiment que je ne peux pas adhérer à cette binarité, pile ou face, pile on est homme, face on est femme. Donc, il y a quelque chose, il y a tout un spectre entre les deux aussi. Et on peut pas non plus présumer que la personne devant nous est aussi dans cette binarité. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu cette envie d'explorer aussi les genres, aussi et même de pas nécessairement non plus dire bon là maintenant d'accord c'est pas binaire, mais je pense que j'ai trouvé mon identité, voilà, je m'arrête ici dans ma vie, je suis arrivée, mais aussi accepter l'idée que ça peut bouger aussi, c'est quelque chose qui est mouvant. C'est ça, dans la société on est habitué, en tout cas, dans la société occidentale, disons, je vais parler juste pour nos sociétés, mais on est habitué à aimer la sécurité par rapport à la personne qu'on a devant nous. Qu'est-ce que tu es? Et puis, on aime ça fixer son identité. Mais ça fonctionne pas comme ça. Dans notre vie, on est plusieurs choses. Et parfois aussi, même dans la même journée, on est plusieurs choses. Mmh. Pas juste sur l'axe de l'identité sexuelle et de genre, mais sur tous les axes, on est de multiples choses dans nos journées.
Alors, il y avait une table ronde sur la poésie queer. Je pense qu'il y avait plusieurs invités, justement, des chercheurs en littérature queer. Il y avait Roxane Nadeau, qui est poète et critique littéraire. Il y avait aussi Guillaume Girard, qui est chercheur en littérature queer. Et comment s'est déroulée cette conférence? Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, on ne fait pas assez mention de ce mot, de ce monde, des activités queer dans nos médias, mais aussi dans nos activités.
Il y avait aussi à la table ronde Princesse Lamarche, qui fait de la poésie queer, un contenu assez érotique, mais qui repousse aussi un peu les limites de ce qu'on considère comme étant érotique, ou un peu les a priori des rapports sexuels. C'est assez intéressant ce qu'elle fait aussi. Alors oui, c'est une belle table ronde. On était toutes les trois. Guillaume Girard était là en pensée, finalement. Il n'a pas pu être des nôtres parce qu'il était appelé à l'extérieur de la ville. Mais toutes les trois, donc Roxane, Princesse et moi, on a réfléchi à la fois du point de vue de l'écriture, parce que toutes les trois, on écrit, mais aussi toutes les trois, on a réfléchi à l'histoire du mot queer, comment ce concept-là est arrivé aussi, un peu comme une insulte. C'est une insulte en anglais à l'origine. Mm-hmm. Ce n'est pas un terme francophone. Il a mis un peu plus de temps à entrer dans l'usage francophone, et il est plus entré du point de vue de la théorie. Il n'est pas entré comme... On ne veut pas insulter quelqu'un en français en le traitant queer. Ce n'est pas... Il y a plein d'autres insultes, mais... là, quand même. Mais donc, on a réfléchi aussi un peu à l'histoire de tout ça, et aussi à la façon dont nous abordons l'écriture par rapport à nos identités qui sont très différentes aussi les unes des autres.
Oui. Alors, Sylvie Bérard, je rappelle aux gens que vous enseignez aussi la littérature des Premières Nations. Ça, je trouve ça formidable. Je vous lance un défi. Est-ce que ça vous intéresserait de temps en temps de passer à nos émissions pour parler justement de ce que vous enseignez, ce que vous faites, et parler aussi de vos ouvrages, de vos œuvres, ou encore un sujet d'actualité sur la francophonie qui vous intéresse? Alors, je vous lance l'invitation en public.
C'est gênant de refuser. Ben oui, parce que, entre autres, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, on oublie parfois qu'il y a des études françaises à Trent. On oublie aussi qu'il y a des francophones à Peterborough aussi. Mm-hmm. Alors, oui, je pense que ce serait intéressant si je pouvais être une petite voix au milieu des autres voix francophones.
Et peut-être un jour, on ira vous rendre visite et faire une émission en direct.
Ah, ben ça, j'adore.
Sylvie Bérard.
Une belle ville, un beau campus.
Alors, à croire que j'aime les failles aux éditions Prise de parole, à acheter, à lire absolument, à dévorer absolument. Voilà, un bon cadeau pour le mois de la francophonie. Je vous remercie infiniment et on se reparle très prochainement. Encore une fois, bon mois de la francophonie et bonne journée des femmes.
Merci beaucoup.
Au revoir. Voilà, tous les étudiants et le public vous applaudit.
Oh, c'est dégueulasse ici. Vous n'avez pas des mouchoirs, quelque chose?
C'est toujours propre avec moi.
Des lingettes. Tiens, vous en voulez un? Tiens, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut?
Oh, il fait chaud. Ouf. Ah, il fait chaud là-dessous, dites donc. Non, mais ça, c'est pas vrai, c'est un masque pour faire des travaux, mais il y a rupture de stock partout, qu'est-ce que vous voulez? Mohamed, est-ce que vous connaissez l'origine du mot virus?
Absolument pas.
Alors, le mot virus...
Latine, non?
Oui, tout à fait, ça vient du latin. Virus, c'est pareil. Au XVe siècle, ça signifie le suc des plantes. Pas le sucre, mais le suc, S-U-C. Le suc, c'est le jus, c'est le liquide des plantes et des animaux, c'est le sperme, c'est la semence, mais... c'est aussi le venin, le poison. Le virus est le parasite des cellules. On sait aujourd'hui que c'est une particule microscopique infectieuse qui est capable de se répliquer en utilisant le métabolisme d'une cellule. Le coronavirus, lui, est un virus à couronne. Corona en latin. On l'appelait coronavirus parce que quand on l'étudie au microscope, on voit qu'il est rond et qu'il est entouré de protubérances, bah, comme une couronne ou comme un bouchon de bière. Le coronavirus est un type de virus, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a d'autres. Bah, le SRAS, en 2003, était un coronavirus. Savez-vous, Mohamed, comment on nomme les virus?
Ah non.
C'est intéressant.
Et bien,
très souvent, on les baptise en fonction de leur forme. Ah. Le rotavirus est un virus en forme de roue. Il peut donner des gastro aux enfants. Le filovirus a la forme d'un fil. C'est le cas d'Ebola qui, il y a 2 ans, a provoqué une épidémie en RDC et où le dernier malade a quitté lundi l'hôpital. La fin de l'épidémie va être décrétée dans 42 jours s'il n'y a pas de cas positif. D'ici là, on croise les doigts. Le coronavirus qui fait trembler le monde actuellement a par ailleurs un nom propre. Covid-19. Les experts vont nous dire qu'il s'agit en fait du nom de la maladie et pas du virus, dont je vous épargnerai l'intitulé. Les experts ont raison. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Covid-19 est un sigle composé à partir du co, de coronavirus, du vi, de virus, et du d, de disease, maladie. En anglais, le 19 fait évidemment référence à l'année de découverte du virus. Parlant de mots anglais, Mohamed,
ouais.
Cluster.
Oh là là.
Il vous énerve celui-là. Hein?
Ah oui,
vous l'avez entendu.
Vous avez mon tweet.
Il est horrible. Alors, c'est un mot qui revient régulièrement depuis quelques jours chez les politiques français. Par pitié, par
Stop.
Pitié. Parlez-nous français. On est en France. Hein? C'est déjà assez compliqué comme ça de comprendre toute l'histoire et de comprendre ce qu'on nous dit. Après, on nous dit le contraire et puis plus personne ne sait rien. Alors, un cluster, c'est tout simplement une grappe, comme une grappe de raisin. Mais bon, c'est pas très joli de dire grappe. Alors, c'est un regroupement de cas au même endroit, au même moment. En France, le premier cluster est apparu dans le département de l'Oise. Cet anglicisme incompris par la plupart d'entre nous, a suscité beaucoup d'exaspération sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Karim pense avoir trouvé un équivalent. Il propose le terme « foyer épidémique ». Pas mal.
Correct. Donc, hein? Très bien.
Voilà. Donc avant de rentrer chez moi, maintenant, je vais aller m'enfermer comme tout le monde. Je voudrais qu'on revoie l'image de la semaine. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et nous a beaucoup fait rire
vrai,
et
ça.
Sourire, tout à fait, tout à fait. C'est sans doute le plus beau coup de soleil de l'histoire du coronavirus.
Alors c'est notre chroniqueuse à TV5 Monde, Linda Giguère. Merci beaucoup. Elle était avec Mohamed, animateur du journal 64 minutes à TV5 Monde cette semaine, c'était vendredi. Et nous allons recevoir, je vous rappelle, après les news, non, les nouvelles, les manchettes de Radio France Internationale, Nathalie McDonald-Dupuis, elle est journaliste à Radio-Canada. Restez des nôtres.
Solo.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
En
Andréane Ménard est de retour avec nous. Rebonjour Andréane.
Rebonjour Nathanaël.
À la une, le coronavirus et de nouvelles mesures décrétées en Italie.
Oui, le nord du pays est désormais sous cloche. Le décret a été signé ce matin. Il déclare en quarantaine 14 régions, dont la Lombardie avec la ville de Milan, mais aussi la Vénétie avec Venise et la région de l'Émilie-Romagne avec Bologne. Des régions très importantes, Nathanaël, pour l'économie, pour le tourisme en Italie. L'Italie érige donc des remparts pour se protéger du virus. Rome qui comptabilise 233 morts sur son sol et plus de 5800 cas. Le chef du gouvernement italien a également décrété à compter d'aujourd'hui la fermeture sur le territoire de tous les cinémas, théâtres, musées, entre autres. Sachez également que le Grand Princess, ce navire qui stationne depuis plusieurs jours au large de la Californie avec une vingtaine de cas de coronavirus à son bord, a été autorisé il y a quelques instants à accoster à Oakland dans le nord de la Californie.
Ce dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes.
Oui, de nombreuses manifestations sont donc prévues aujourd'hui en France notamment. Des dizaines de milliers de personnes sont notamment attendues à Paris.
Comment payer nos créanciers alors que de nombreuses personnes sont dans la rue et ne peuvent pas s'acheter du pain?
Ce sont les mots employés par Hassan Diab hier, le Premier ministre libanais, qui a annoncé que le pays ne serait pas en mesure de rembourser 1,2 milliard de dollars de sa dette arrivant à échéance dans deux jours. Le bilan où un mouvement de contestation dure depuis plusieurs mois. Les manifestants réclament notamment la restructuration de cette fameuse dette et des réformes économiques urgentes dans un pays qui ne vit que grâce à l'argent envoyé par la diaspora libanaise.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Top, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
C'est reparti, un quart d'heure d'actualité média, il est 9h40 sur France Inter.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Enquête sur un oubli, écrit Edoui Plenel, phrase perdue, datée du 13 août 1789. Jean-Sylvain Bailly est son auteur, vous ne le connaissez pas, il fut pourtant le premier maire de la commune de Paris, le premier président du tiers état et de fait le premier président de l'Assemblée nationale. Où, quand, comment a-t-il énoncer la chose suivante. Écoutez bien, la publicité est la sauvegarde du peuple. Il faudra, Edoui Plenel.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CUT 89,5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la Semaine de la francophonie de Toronto, popourrichaud.com ou allez sur semainefrancophonie.toronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de Parole, le salon du livre de Niagara avec Sophie Franck, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Education Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Chantez avec moi.
Francophonie, c'est ma vie. J'ai grandi en Europe, en France,
mon Océanie. J'ai grandi en Afrique et moi.
Ah, quelle belle chanson, j'adore. Y a-t-il une formation en journalisme d'investigation au sein de la francophonie ontarienne ou canadienne? Journée internationale des femmes oblige. Y a-t-il un journalisme utile aux femmes? Quel regard sur les femmes dans les médias? Quelle place dans les rédactions? La première édition des Assises internationales du journalisme sur le thème « Journalisme utile aux citoyens » s'est tenue à la Cité de la culture de Tunis au mois de novembre 2018. Et pendant 3 jours, c'était une première, hein, pendant 3 jours, débats, ateliers, échanges sur le journalisme, les citoyens, la place des femmes dans les rédactions, la protection des journalistes dans les zones de conflit et d'autres sujets d'actualité ont été abordés avec la participation active de plus, tenez-vous bien, de plus de 500 journalistes venant de 30 pays et chaque débat était traduit en français et en arabe. Bravo. Qu'en est-il du journalisme d'enquête en Ontario français? Est-ce une denrée rare de trouver des journalistes d'enquête francophones? À part l'école de journalisme Promédia, où j'ai fait mes premières armes dans les années 80, qui sont les mentors, les professeurs reconnus dans le monde des médias de nos jours? Hein, où sont-ils? Par journalisme d'enquête, nous entendons le travail qui permet d'exposer des sujets bien cachés, des patates chaudes, comme on aime à dire, mais que vous aimeriez et avez le droit de connaître en tant que citoyen, citoyenne, électeur, électrice, contribuable ou investisseur. Aujourd'hui, Popourri Show s'interroge sur le métier du journalisme. Quel rôle le métier de journaliste doit-il encore jouer? Quel rapport entre les citoyens et les journalistes? Rupture de confiance semble s'observer dans certaines communautés. Pourquoi en est-on arrivé là? Et comment y remédier? Y a-t-il une rupture entre les journalistes et les citoyens? Eh oui, le débat est lancé. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'accueillir pour la première fois une des rares journalistes d'enquête de Radio-Canada. Eh oui, ces reportages ont largement contribué à lever le voile sur les scandales, sur la corruption, sur le financement occulte de certains organismes francophones en Ontario. Eh oui. Vous savez bien de qui je parle. D'où est venue cette passion pour ce métier difficile et qui comporte des risques? Elle est journaliste d'enquête, trilingue à Radio-Canada à Toronto. Elle est aussi réalisatrice de documentaires diffusés à Radio-Canada, CBC et TV5 Monde. Mesdames, messieurs,
plus d'un an, Léla...
Mesdames et messieurs, nous accueillons Natacha McDonald-Dupuis. Musique.
Voilà.
Ah. Eh oui, tapis rouge, hein, pour la première fois, Natacha McDonald-Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Et bon mois de la francophonie et bonne fête à des femmes.
À vous également.
Oui, alors nous avons du plaisir ici et tout le monde est intéressé à savoir, mais cette femme, elle est courageuse, fait de reportages, elle va fouiller dans les histoires de la francophonie, elle nous fait découvrir des choses qu'on ne savait même pas. Et vous êtes très reconnue maintenant à travers vos enquêtes. Comment faites-vous pour vivre tout ça? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de pression sur vous quand vous travaillez sur un sujet, surtout touchant certains organismes très connus en Ontario.
Ben, écoutez, des fois, on ne réalise pas peut-être la portée de notre travail dans la communauté. C'est sûr que dans la dernière année, j'ai eu la chance de parler à beaucoup de gens dans la communauté francophone qui disent... apprécier que Radio-Canada, puis c'est pas seulement moi que Radio-Canada et d'autres médias, il y a TFO qui le fait bien aussi, s'intéresse aux journalistes d'investigation, offre une vitrine là dans les coulisses du pouvoir, de nos institutions francophones également. Mais c'est représente le citoyen, je dirais. Je veux dire, les francophones, oui, les médias francophones doivent contribuer à bon, l'essor de la francophonie, à informer les citoyens, mais également à être tiens-garde de nos institutions.
Mmh. Et parlez-nous un petit peu pour les jeunes qui nous écoutent, monsieur, madame, tout le monde, parce que le métier du journalisme ou être animateur de radio, c'est toujours un monde méconnu du monde, surtout du monde francophone. Ils disent, mais qui est cette personne qui est derrière ce micro? Parce qu'on n'est pas à la télévision où on nous voit. Vous, vous faites les deux, hein, d'ailleurs. Vous êtes à la télévision, vous êtes aussi à la radio, n'est-ce pas?
Exactement, oui.
Mais comment on s'y prend pour faire de la recherche? Est-ce que, premièrement, vous recevez des indices de la part de certaines personnes ou c'est vous, personnellement, qui faites des recherches? Mais comment vous vous y prenez et c'est à partir de quand vous commencez votre recherche?
Bien, c'est un mélange des deux. Évidemment, quand on est journaliste, on s'intéresse à tout, on lit beaucoup, on s'informe, on suit l'actualité. Et des fois, on décèle des tendances ou on entend quelque chose dans les médias ou dans le monde, notre entourage qui nous donne la puce à l'oreille et qui nous pousse à gratter plus. Mais c'est certain que plus on sort des histoires, plus on fait de l'enquête, plus on devient connu dans la communauté, bien, c'est certain que des fois, on reçoit des indices. Ça m'est déjà arrivé de recevoir, par exemple, des enveloppes anonymes au travail avec comme des informations. Des fois, ces informations-là ne mènent nulle part. Des fois, elles mènent à un reportage. Et je veux dire, c'est l'un des éléments centraux de l'enquête, c'est les sources. Donc, ces gens-là qui nous offrent des pépites d'informations, mais on va les rencontrer. On va les rencontrer dans la communauté où on les reçoit à Radio-Canada. Des fois, on leur accorde la confidentialité pour avoir ces informations-là tout en respectant le code de déontologie de Radio-Canada. Donc, je vous dirais que c'est vraiment un mélange des deux. C'est garder au parfum de ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe dans nos institutions et pour développer cette confiance avec le public et pour pousser les gens également à venir vers nous et nous apporter de l'information.
Alors, si vous permettez, nous allons écouter un extrait d'un reportage qui a fait réagir à beaucoup de parents. Il y en a même qui nous ont appelés. Environ 35% des jeunes Canadiens de 14 à 21 ans disent avoir subi une agression physique à l'école et 12% ont été agressés sexuellement par un ou plusieurs élèves, selon un sondage mené pour le compte de CBC Radio-Canada. Et un grand nombre de ces gestes ne sont pas rapportés au personnel de l'école. Nous écoutons ce reportage qui avait justement suscité beaucoup de réactions. On écoute un extrait.
Plus d'un an, Léla Rémy se bat devant le tribunal des droits de la personne. Son fils a été, selon elle, victime de discrimination raciale à son ancienne école près de Toronto.
Il était plaqué sur le sol, mais à plusieurs incidents, avec 3 adultes au maximum engagés sur lui.
L'enfant avait 6 ans à l'époque. Selon le conseil scolaire, il aurait blessé des membres du personnel et les aurait menacés avec des ciseaux. Pourtant, cette année-là, l'école n'a rapporté aucun incident violent au ministère.
De ne pas l'admettre ou le reporter au ministère, c'est une injustice à l'enfant.
En Ontario, c'est pourtant obligatoire depuis 2011. Le ministère compile des données sur les agressions graves et sexuelles, les actes haineux et les menaces avec une arme. CBC Radio-Canada a obtenu ces données en vertu de la loi sur l'accès à l'information et trouvé une douzaine de cas jamais rapportés.
4 cas sont survenus dans des écoles francophones, incluant 2 cas d'abus sexuels envers des enfants. À la suite de notre enquête, plusieurs conseils scolaires nous ont dit qu'ils allaient réviser leurs données.
Alors justement, c'est très profond, hein, parce que je trouve que vous avez fait un beau travail. Mais quelle a été la réaction des conseils scolaires, justement, des enseignants ou encore du ministère de l'Éducation? Est-ce qu'il y a eu une réaction de leur part?
Je pense que les enseignants, il y en a certains qui n'ont pas été surpris parce que, dépendamment des écoles, là, c'est pas partout pareil, mais ils voient cette violence-là dans leurs écoles. Ils sont témoins d'incidents parfois. Ils sentent qu'ils n'ont pas toujours les ressources pour pallier à ces comportements-là. On le sait, hein, la taille des salles de classe continue d'augmenter, donc c'est un défi pour eux. Je dirais les conseils scolaires, ça dépend d'un conseil à l'autre. Il y a des conseils qui ont été plus transparents avec nous que d'autres, qui nous ont vraiment, quand on leur a demandé, ils nous ont fourni toutes leurs données sur le sujet, ils ont communiqué avec nous. Il y en a d'autres qui ont carrément refusé de nous donner leurs données. Il a fallu qu'on aille du côté du ministère, qu'on fasse des dizaines de demandes d'accès à l'information pour compiler toutes ces données-là. Parce que c'était vraiment un casse-tête qu'il fallait tout mettre ensemble pour avoir une vue d'ensemble sur le problème dans toute la province.
Est-ce que ces francophones là ou des organismes même qui n'ont pas été cités dans un de vos enquêtes ou reportages sont à l'aise avec vous? Parce que je sais souvent les francophones sont pas très très friands quand on parle d'une façon, je ne dirais pas négative, mais qu'on critique certaines pratiques, par exemple, que ce soit au niveau de l'embauche, au niveau de la transparence. Et est-ce que c'est des organismes francophones sont à l'aise de votre présence, par exemple?
Je pense que certainement, je veux dire, il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand on fait des vagues, quand on perturbe le statu quo. Je pense que c'est important pour les gens de la communauté de se rappeler que le but du journaliste d'enquête, c'est pas faire des enquêtes sensationnelles, c'est pas de chercher le scandale, la controverse, mais c'est de s'appuyer sur des faits, sur des témoignages crédibles pour faire sortir la vérité. Je pense que en milieu minoritaire, quand on est une communauté de plus petite taille, ben la critique, elle est peut-être un peu plus mal vue. Hein, ça peut complexifier notre travail en tant que journaliste. Mais je pense aussi que pendant longtemps, il y a des gens de la communauté, pas juste francophone, de toutes les communautés minoritaires qui voient leurs médias comme un chien de garde pour protéger le fait français ou la vitalité de la langue. Puis oui, il y a un rôle là-dedans pour Radio-Canada, mais il faut que ça se passe en équilibre avec l'intérêt public et l'intégrité journalistique.
Et justement, avec le monde numérique, où tout le monde est un peu journaliste, tout le monde est un peu reporter, il y a aussi du voyeurisme dans tout ça. Est-ce que les médias généralistes, les médias comme Radio-Canada, doivent revoir certaines pratiques, parce que certains disent qu'il y a une rupture des fois entre les médias officiels et les citoyens? Il y avait un débat pas tellement longtemps en Belgique avec plusieurs journalistes dans différents médias et ça suscite beaucoup de questions ces temps-ci. Quelle place est-ce qu'il faut repenser au journalisme, à l'esprit même de nos médias?
Je pense que c'est certainement un défi. Au Canada, je dirais que c'est un peu moins pire peut-être que dans d'autres pays. À Radio-Canada, on a des normes et pratiques journalistiques très strictes, très définies. Et je dois vous dire vraiment qu'on s'appuie sur ces normes-là. Avant qu'un reportage sorte, là, il y a plusieurs personnes qui passent au travers des faits, qui font des vérifications. Je pense que l'important, c'est que ça va être de continuer à suivre ces normes-là. Je pense que aussi il y a peut-être d'autres médias ou d'autres journalistes, puis je pointe pas du tout du doigt, j'ai pas d'exemple en tête, mais qui parfois sortent des sujets un peu plus sensationnalistes ou avec moins de soucis au détail, à la crédibilité. Donc il faut se rappeler de rester dans le cadre des déontologies.
Alors, deux reportages d'ici Radio-Canada, Ontario, Madame, Monsieur, sont en liste au prix de journalisme de l'Association des nouvelles radios, télévision et numérique. Le premier reportage radio et web de Mathieu Simard, c'est votre collègue sans doute, qui raconte l'essor de la religion catholique dans les banlieues de Toronto, une croissance qui est alimentée par l'arrivée de citoyens de partout dans le monde. Et deuxième personne qui est en liste pour ce prix, c'est l'enquête de Natacha McDonald-Dupuis, et qui est avec nous, qui a révélé que René Viau, embauché par la Société économique de l'Ontario, avait été reconnu coupable par le passé d'entrave à la justice et d'avoir agi comme prête-nom par un tribunal administratif au Québec. Et cet article avait suscité beaucoup de vagues en Ontario français, même en dehors de nos frontières. Et finalement, le monsieur a dû démissionner. Alors donc, vous êtes en liste. Félicitations, j'espère que vous serez la grande gagnante. Est-ce que cet article vous a causé des ennuis, des soucis?
Pas du tout, pas du tout. C'est une enquête qui nous a pris 3 mois à effectuer quand même. J'ai été presque à temps plein là-dessus. Ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de vérifications. Donc, je pense que quand on a publié l'enquête, c'était assez béton, là. Donc, j'ai pas eu de commentaires négatifs, j'ai pas eu j'ai juste du positif. Les gens dans la communauté sont venus me voir puis m'ont remercié d'avoir porté autant de soucis aux détails et avoir publié quelque chose d'aussi détaillé.
Je pense que c'est tellement important que vous soyez ici, comme vous avez si bien dit, c'est bien beau de célébrer la francophonie, la culture, la musique, les arts, tout ça, mais il faut aussi de temps en temps se pencher sur des sujets qui sont peut-être un peu tabous encore pour la communauté francophone. Et là, c'est un sujet qui nous intéresse, ça touche les médias. Et est-ce que vous avez un scoop à nous lancer? Vous travaillez sur quelque chose en ce moment?
Malheureusement, je ne peux rien vous dire. Ouais. Surveillez notre site web.
Alors, et nous remercions votre patron, Georges Hachy, qui vous a donné la permission de passer à notre émission. Nous sommes vraiment très, très heureux que vous soyez là. Vous avez un message à passer? Comment voyez-vous l'évolution de la francophonie depuis que vous êtes ici? Vous fréquentez beaucoup d'organismes et vous êtes au feu de l'action, des fois sur des sujets. Vous travaillez aussi en anglais, il faut bien le dire.
Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues de CBC pour mes reportages.
Oui, et des vœux pour cette francophonie. Comment voyez-vous l'avenir de la francophonie de Toronto et du Canada?
Je dois dire que le mot qui me vient en tête, c'est solidarité. Je pense que somme toute, la communauté francophone est solidaire. Diversité également, je pense que la diversité culturelle, c'est notre porte première. En Ontario, à Toronto, on a des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc, je pense que de rappeler les valeurs communes qui nous unissent en tant que communauté, c'est essentiel là, pour le futur et la vitalité de notre langue.
Oui, et aussi nous avons une pensée bien sûr pour nos collègues qui travaillent dans des situations très difficiles, dans des pays très difficiles. On sait qu'être journaliste d'enquête ou être journaliste tout court, ça peut causer des problèmes, surtout dans des états de dictature. Alors, je pense toujours à ça, à ce travail que vous faites et que font nos collègues journalistes dans d'autres pays. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir été là. Nathalie, j'espère vous avoir bientôt à l'antenne pour nous parler des autres sujets d'enquête.
Super, merci de m'avoir invité.
Passez une bonne journée et à bientôt.
À vous aussi, au revoir.
Natacha McDonald-Dupuis, Madame, Monsieur, journaliste d'enquête de Radio-Canada. Surprenant comme un porc épique, surpuissant comme un triple gin tonic. Catch le disque si on passe le puck, sur réception dans le top du net. Keep it on the low, toujours en demande, man, c'est on and on. Chose que j'ai dans le ventre, seulement quand il faut. Y'aura toujours un autre humain qui le fera mieux que moi. Je compétitionne contre moi-même pour qu'il y ait des résultats. Est-ce que j'ai tort ou bien les corps entre nous se creusent? Réussite ou succès, lequel des deux comes first? À moi, je me pose la question, frérot. À part ça, je la pose à personne. Parce que chacun en a sa version. Moi, je reste un, c'est ça que je veux qu'on reste haut. So, je keep it on the low, c'est ce que je pense. Je vis les up and down, chose que j'ai dans le vent. What is? Tout ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, je vais faire ce qui me tient à cœur. Hein, puis au diable, j'ai envie de danser. What up, what up, what up, what up. Monsieur, ces nouveautés musicales, Miles Barnes, que vous allez entendre régulièrement à cette émission. Il est originaire d'Aunsic. Ce jeune rappeur possède non seulement un grand talent pour le rap, mais aussi de grandes aptitudes en danse et en théâtre. Et nous remercions beaucoup la collaboration, nouveau partenaire, Hydrophonic Records. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et je vous souhaite encore une fois bon mois de la francophonie et bonne fête à toutes les femmes du monde.
CIUT 89.5 Toronto.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CIUT 89.5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la Semaine de la francophonie de Toronto, popourrichaud.com ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de parole, le salon du livre, le Niagara avec Sophie Franck, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Education Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Et oui, madame, monsieur, ne ratez pas la grande dictée de l'Alliance française de Toronto. Et nous allons recevoir le directeur de marketing, monsieur Christophe Plantivaud, qui sera des nôtres, pour vous donner tous les détails et les secrets de la grande dictée. Et oui, vous avez jusqu'au 15 mars pour vous inscrire. C'est prévu pour le jeudi 19 mars. C'est un événement des Amériques. Il faut participer, hein. Et même les gens de Mississauga, hein, l'Alliance française de Mississauga, vont avoir un écran. Et oui, la grande dictée de Gabriel Roy dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Mais pour l'instant, nous irons faire un tour à l'Université d'Ottawa. Tout de suite.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol,
le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la deuxième langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture,
Il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques. Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'heure.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons,
vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois,
Acadiens, Franco-Tico,
Guadeloupéens,
Franco-Ontariens,
Mexicains.
Nous sommes la francophonie.
Et oui, le 12 mars, le CREFO vous donne rendez-vous, madame, monsieur, à sa prochaine conférence qui démarre à 17h. C'est 252 rue Bloor Ouest. Ça bouge, hein, chez notre partenaire de la francophonie. Et le thème, apprentissage et langue de scolarisation, défis et pistes didactiques en contexte d'allophonie et de minorisation linguistique. Et notre invité, la conférencière, détient un baccalauréat en orthopédagogie. Pédagogique, une maîtrise en didactique du français et un doctorat en recherche qui porte sur l'appropriation de l'écrit, sur le développement orthographique et sur l'étude des composantes socio-cognitives et culturelles en jeu dans l'appropriation de l'écrit en langue seconde par l'entremise des orthographes approchés et de la littérature de jeunesse. Elle s'intéresse aussi au milieu multiethnique et plurilingue, apprentissage et langue de scolarisation, défis et pistes didactiques en contexte d'allophonie et minorisation linguistique. La conférence de CREFO le 12 mars prochain. Nous avons le plaisir d'accueillir la conférencière, qui est professeure à l'Université d'Ottawa, Carole Fleuret. Eh oui, c'est le tapis rouge, hein, c'est la première fois. Professeur Carole Fleuret, bonjour. Je vous souhaite un bon mois de la francophonie, mais aussi une bonne journée des femmes.
Merci beaucoup, bonjour à vous.
Et nous sommes très heureux de vous avoir, c'est la première fois. Vous faites des choses très intéressantes. Ça bouge, hein, à l'Université d'Ottawa.
Oui, on essaie de faire des choses intéressantes.
Oui, alors...
Des choses qui nous permettent de nous poser des questions pour avancer.
Et ce que je trouve formidable, cette radio, cette émission, nous tentons de décloisonner un peu nos murs dans nos universités pour se projeter dans la communauté afin de démontrer aux auditeurs, aux auditrices, aux jeunes, aux francophiles qu'il y a une richesse incroyable dans une université et dans le monde de la francophonie en Ontario.
Tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est que l'université, le monde universitaire fait de la recherche qu'on transpose dans le milieu, mais le milieu est expert justement du milieu et l'idée, c'est d'arrimer des ponts entre l'université et les contextes pédagogiques. C'est comme ça qu'on pourra, je crois, offrir au mieux des propositions qui sont plus adéquates par rapport aux populations qu'on a dans nos classes.
Parlez-nous un petit peu justement de ce thème qui nous intéresse, de votre prochaine conférence au CREFO.
Mais en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on vient au monde en sachant lire et écrire, tellement on a automatisé tous les processus qui nous semblent en fait naturels, mais qui sont loin de place et qui en fait se mettent graduellement, c'est sur une espèce de continuum, hein, de la langue. On passe de l'oral à l'écrit, et puis là, quand on est à l'écrit, on part aussi souvent du postulat dans les écoles que... Bah, toutes les sociétés sont lettrées, puis que tout le monde baigne dans l'écrit. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des groupes ethnolinguistiques qui sont davantage centrés sur l'oral, sur des pratiques d'oral. Donc, lorsque les enfants arrivent à l'école, bah, c'est toujours beaucoup plus difficile. Ils ne sont pas en difficulté. C'est simplement que les buts et les fonctions de la langue, ils ne les connaissent pas. Ils ne sont pas forcément familiers avec eux. Puis, il y a aussi des groupes où c'est plus une démarche qui est personnelle à l'enfant de lire et d'écrire. Donc, il n'y a pas forcément à la maison des pratiques qui tendent vers cette entrée dans l'écrit. Alors, c'est un petit peu ça, en fait, que je voudrais remettre au goût du jour un petit peu à travers cette conférence pour un petit peu expliquer que, bien évidemment, apprendre de lire et écrire en français, ça veut dire connaître les buts et les fonctions de la langue, ça veut dire connaître le principe alphabétique, donc on lit de gauche à droite,
connaître les lettres. Il ne faut pas oublier non plus que lorsque les apprenants en langue seconde justement s'approprient le français, il y a des langues qui sont beaucoup plus proches du français, telles que l'espagnol par exemple. Mais on a aussi, puis en Ontario, on a beaucoup d'élèves qui sont arabophones. Donc ce sont des langues qui sont extrêmement éloignées de la nôtre, que ce soit dans le sens de l'écriture, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la sonorité de la langue. Donc, les élèves ont développé tout un nouveau répertoire phonologique qu'ils n'ont pas, bien évidemment. Ils l'ont dans leur L1, mais pas dans leur langue d'origine, mais pas dans leur langue seconde. Donc, c'est tout ce travail-là un petit peu que je veux juste remettre un petit peu en avant, je dirais, parce que c'est quelquefois, comme je vous disais, on a tendance à croire que les choses se font naturellement, mais il y a des processus, que ce soit au niveau de l'apprentissage, oui, du traitement de la langue, etc., que les élèves doivent acquérir. Il ne faut pas les oublier parce que tout passe par là.
Vous savez, ça me passionne personnellement. Je suis convaincu que les auditeurs en retirent une grande source d'inspiration. Mais dans les salles de classe, monsieur, madame, tout le monde, les professeurs qui doivent faire face à cette réalité, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des défis énormes à relever. Alors, est-ce que vous avez des pistes de réflexion pour le ministère de l'Éducation, par exemple?
Oui, ben j'en ai plein. Mais je pense que la première chose, je serais tentée de dire, c'est de repenser en fait le postulat pédagogique, c'est-à-dire qu'on est dans une vision qui est extrêmement centrée sur le franco-ontarien, si je peux le dire ainsi. Alors, bien évidemment, l'idée ici, c'est pas de délaisser ce que représente la francophonie en contexte de minorisation, mais c'est, puis ça rejoint un petit peu l'anniversaire de la francophonie, je pense qu'il faudrait davantage la repenser, la francophonie, c'est-à-dire la rendre plus équilibrée. Il y a énormément d'enfants dans nos classes, par exemple, qui viennent d'Afrique, qui parlent français, qui parlent un français différent, certes, mais c'est de la francophonie. Je pense qu'aujourd'hui, la francophonie, il faut l'envisager de façon plurielle, c'est-à-dire laisser une place, laisser une voix aux élèves qui ont des choses à dire et qui peut-être appréhendent la langue d'une façon différente. Donc, pour revenir au contexte de classe, je pense qu'il faut qu'il y ait des formations qui soient beaucoup plus adéquates, qui soient dispensées, bien évidemment, aux enseignants, parce qu'ils ne sont pas forcément connaissants de l'apprentissage de la langue seconde, ni ce à quoi ça se réfère, ni les facteurs qui sont à prendre en compte. Et puis, bien évidemment, ça veut dire, par rapport à la formation, trouver des pratiques pédagogiques qui soient, je serais tentée de dire, plus adéquates, c'est-à-dire qui font plus écho à l'hétérogénéité qu'on a dans les salles de classe.
On fera appel à vous régulièrement, si vous le permettez, parce que vous avez vraiment une tonne de réflexions et de pistes, de débats, de rencontres et d'émissions, je pense, pour les prochaines semaines. Et tout au long de l'année, d'ailleurs, on célèbre la francophonie. Alors, mm-hmm. Je rappelle, madame, monsieur, professeur Carole Fleuret sera la conférencière et nous sommes très, très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Conférence du CREFO prévue le 12 mars à 17h. C'est le métro Saint-Georges, très facile à trouver. Et c'est à la salle 12, 12e étage. Et donc, vous devez vous inscrire sur Eventbrite. Allez sur notre site ou sur le site du CREFO. Vous allez avoir tous les renseignements. Mais il y a déjà un lien sur le site popourichaud.com. Et là, vous aurez la chance de vous inscrire pour cette conférence prévue le 12 mars à 17h. Je vous remercie infiniment et j'espère vous revoir peut-être en chair et en os un jour à oui. Toronto ou à Ottawa.
Bien sûr, avec grand plaisir.
Et vous êtes toujours la bienvenue à la radio, hein?
Quand vous voulez.
Oui. Alors, je vous remercie infiniment de la part de tous les étudiants, de tous les professeurs, de tous nos invités. On vous applaudit très fort et on vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale dans le cadre du mois de la francophonie. Nous avons quelques petits problèmes techniques. J'espère que ça va se réparer. Nous sommes en direct de Hot House Studio et nous avons aussi le bonheur de vous inviter à toutes les activités que vous propose le Collège Boréal et les organismes partenaires qui pilotent la programmation de la semaine francophone. Vous allez voir, il y a des spectacles très intéressants, mais aussi des activités sur les campus. Le club canadien vous invite à son déjeuner causerie. Quoi d'autre encore? Il y a la dictée, bien sûr, de l'Alliance française. Vous allez aussi revoir ou visiter plutôt le site de l'Organisation internationale de la francophonie. 50 ans de francophonie, ça se fête. Et vous allez voir toutes les activités du monde entier, de la planète, qui se déroulent pendant ce mois de la francophonie et aussi pendant toute l'année, hein, 2020. Et vous allez, bien sûr, retrouver notre site, nos activités sur le site de 50 ans de francophonie. De l'Organisation internationale de la francophonie. Nous disons bien le bonjour à toute l'équipe de l'OIF et ils font un travail magnifique et peut-être, il va y avoir une surprise très prochainement de cet organisme qui célèbre la francophonie en grand. Madame, monsieur, Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Alors on me dit que j'ai encore un peu de temps. Voilà.
Regarde toutes nos envies, le chemin de nos vies, c'est le seul combat important ici-bas. Envie de vivre.
Et oui, très belle chanson ensemble, la francophonie riche de nos différences, belle chanson remplie d'espoir, de diversité et d'unité. C'est le chœur gospel de Paris sous la direction de Célina Ramsaor et Georges Seba. Un grand merci. Et je vous rappelle que la dictée de l'Alliance française, c'est du sérieux. Hein? Est-ce que nous avons un professeur de français qui va nous donner un petit avant-goût de cette dictée? Et oui, on parle de jumelage entre la maison de Colette et la maison de Gabriel Roy à l'honneur lors d'une table ronde organisée par Mireille Naturel à la Sorbonne, nouvelle, le 12 mars prochain de 14h à 16h. Et les actions prévues dans le cadre du jumelage en 2020 seront annoncées mi-mars lors de la réouverture de la maison de Colette. Mais ici, on va vous parler de Gabriel Roy, la maison Gabriel Roy. L'Alliance française de Manitoba, la bibliothèque Gabriel Roy de Québec présente la troisième édition de la dictée Gabriel Roy organisée le jeudi 19 mars. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Christophe Plantivaud, il est directeur marketing principal de Campus l'Alliance française de Toronto. Bonjour Monsieur Christophe Plantivaud.
Bonjour Monsieur Eric, bonjour à tous.
Oui, alors cela nous fait plaisir de vous avoir dans le cadre de cette belle activité qui se déroule un peu partout pendant le mois de la francophonie. Et très heureux de voir que l'Alliance française de Toronto et de Mississauga sont très actifs.
Ah ben c'est un projet qui nous est cher parce que c'est aussi le sentiment pendant 30 minutes d'appartenir à un même réseau, à une même communauté qui ira de Halifax jusqu'au Pérou cette année. On a une dizaine de pays qui sont participants et c'est un grand moment de communion, je dirais, autour de la langue.
Et justement, nous ici, on fait la promotion de cette francophonie des Amériques dont on n'en parle pas toujours. On a toujours à parler de la francophonie d'ici et de l'Ontario avec raison. Mais il y a une richesse incroyable hein, quand on regarde, par exemple, les réseaux de l'Alliance française, mais aussi quand on regarde tous ceux et celles qui vont participer à cette dictée. Alors, parlez-nous justement de la méthode que vous allez utiliser le jour de cette dictée?
Alors, je vais répondre à votre question, mais j'ai une petite devinette à vous poser très rapide. D'après vous, quelle est où se trouve la plus grande alliance française au monde?
Aucune idée.
Au Pérou.
Ah!
Loin devant New York, loin devant la plus grande alliance française au monde, se trouve au Pérou, à Lima. Et effectivement, c'est juste pour faire un commentaire sur la francophonie rayonne aussi en Amérique du Sud. Alors, comment se déroulera cette troisième édition de la dictée? Nous avons donc deux campus qui ouvrent leurs portes. Ce sera le jeudi 19 mars à partir de 5h30. Les gens on fournit tout. Donc, vous venez les mains dans les poches, vous laissez votre bécherelle à la maison. Et on vous fournit le stylo, la copie, la petite tablette pour écrire dessus. Et nous avons donc dans chaque campus une personne qui fait la dictée. Donc il y aura un texte qui sera un extrait d'un roman de Gabriel Roy. Et cette année, on a pris ce que l'on considère être l'un des chefs-d'œuvre de Gabriel Roy. C'est un extrait de sa dernière œuvre qui s'intitule « La détresse et l'enchantement ».
Mmh.
Donc ce sera un texte de 200 mots. Qui sera lu trois fois. La première fois, c'est pour la découverte du texte. La deuxième fois, avec les ponctuations et qu'on puisse. Et la troisième fois, c'est pour la vérification, la correction.
C'est ouvert au public.
C'est ouvert à tous, à toutes, de 12 à 100 et quelques années. L'année dernière, le cadet de notre dictée avait 12 ans. J'espère que cette année, on aura aussi des enfants qui viendront jouer avec la langue. C'est absolument pas fait dans un esprit de compétition. Il n'y a pas un prix pour celui qui a fait zéro faute et un sourire pour celui qui en a fait 200. C'est fait dans l'esprit du plaisir, du partage et de la fête.
Alors, de quel âge à quel âge? De 12 ans à 72 ans?
De 12 ans de 12 ans à pas de limite.
Pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Il y a accès pour les déambulatoires, ouais. Si les personnes sont à mobilité réduite. C'est vraiment pour avoir un moment ensemble où on joue avec un texte magnifique de Gabriel Roy.
Et d'ailleurs, je trouve ça tellement formidable de jouer, jongler avec les mots, rendre la langue française accessible, démontrer que ce n'est pas une affaire très, très sérieuse, n'est-ce pas? On peut aussi lire, on peut avoir du plaisir, on peut chanter, on peut danser, on peut inventer des rimes, n'est-ce pas?
Alors, on peut en effet jouer de cette façon-là, ouais. Et puis on a le droit de ne pas être d'accord.
Ouais, oui,
la petite anecdote de l'année dernière, c'est qu'au moment de la correction où on projetait le texte sur l'écran, il y avait des participants qui n'étaient pas d'accord en disant non, il n'y a pas de S ici, c'est pas cet accent-là. Et ça faisait des vrais débats, mais c'était joyeux. Donc, en effet, on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Et puis, alors, de sortir son téléphone dans un regarder, le dictionnaire québécois dit ceci, le dictionnaire français de France dit cela, ouais. Etc., etc.
Ouais.
Donc, ça fait partie aussi de l'expérience.
Justement, et nous adorons jouer et jongler avec les mots comme vous le constatez régulièrement, n'est-ce pas? Je vous invite, madame, monsieur, à participer à la plus prestigieuse dictée francophone d'Amérique du Nord à l'Alliance française de Toronto. Et cette année, alors vous êtes situé à Spadina, la rue Spadina.
Métro Spadina, le parking est en face, on est en centre-ville Spadina Bloor et à Mississauga.
Oui, et cette année, il va avoir Mississauga sur écran en direct de la maison de Gabriel Roy à Winnipeg.
Exactement.
Alors, vous avez des invités de marque qui seront...
Alors, on a notre liste, en effet, de personnalités. Là, le texte va être lu, par exemple, par le président de l'Alliance française, Donald Dipersiel, ancien headmaster de Glendon.
Ouais.
Et puis, alors, j'ai pas encore regardé les personnes qui ont donné, qui nous ont dit, on vient, on va venir avec vous, on va venir en y participer. Mais encore une fois, le théâtre fait 150 places. L'année dernière, pour la première édition, on a eu une centaine de participants. On avait eu effectivement des notables, des anonymes, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette expérience, c'est que derrière une copie, avec la langue française, on laisse ses titres et ses reconnaissances sociales, puisqu'on est là avec un stylo et on est acteur de son français.
Oui. Alors, être en beau fusil nous pose, c'est la question que nous pose un monsieur qui est dans la région de Québec. C'est Madame Lynn Demeul qui nous dit, que veut dire l'expression être en beau fusil?
J'ai le droit d'appeler un ami.
Pardon?
J'ai le droit d'appeler un ami.
Être en beau fusil signifie être en colère, être enragé.
C'est pas une expression qu'on doit utiliser souvent au Canada.
Mon grand-père était en beau fusil, point. Quelqu'un avait osé marcher sur sa belle pelouse, virgule. Fraîchement coupée, point.
N'oubliez pas l'accent circonflexe sur le « i » de fraîchement.
Alors, cela nous fait plaisir de vous avoir. Alors, les gens ont jusqu'au 15 mars pour s'inscrire.
Oui,
un lien.
Allez sur Alliance Française, c'est en page d'accueil. Mmh. Inscrivez-vous. C'est juste pour être sûr que votre stylo vous attend. Il y a pas, encore une fois, c'est gratuit. Nous, on veut juste savoir combien on prépare de stylos pour accueillir nos participants.
Oui, alors, vous participez aux activités du mois de la francophonie un peu? Vous avez le temps ou pas du tout?
Insuffisamment. Je baisse les yeux, je rougis, je dis pas assez.
Nous sommes très chanceux d'avoir la participation des professeurs, des chercheurs, chercheuses. J'ai jamais vu tant de professeurs qui frappent à nos portes pour partager leurs connaissances.
Ça indique quand même que la question reste vivante et qu'il y a encore des choses à comprendre.
Oui, et on célèbre 50 ans de francophonie institutionnelle. Comment voyez-vous cette francophonie, l'OIF aujourd'hui, en deux mots?
Non, deux mots ne suffiraient pas. Oui. Et puis, vous savez, l'OIF c'est un organisme politique.
Oui.
Et l'Alliance française est apolitique. Donc, toute question de connotation politique, nous faisons un pas en arrière.
Ah, oui, oui. Alors, comme vous êtes avec moi, nous allons terminer cette émission en beauté pour remercier tous nos invités qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie DJ Devera, mais aussi tous ceux et celles qui ont préparé cette émission. Nous avons reçu pour la première fois Natacha McDonald-Dupuis. Je ne sais pas si vous l'avez entendue.
Oui.
Alors, c'est très bien de voir ces journalistes d'enquête et comment elles s'y prennent pour relater les informations. C'est très compliqué, mais enfin, je pense que les auditeurs, les auditrices ont aimé, apprécié son passage à l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que les gens seront nombreux pour aller faire la dictée. Est-ce qu'il y a un prix à gagner? Me demande un étudiant.
Il y a un tirage au sort. Il y a un tirage au sort. Il y a trois gagnants et c'est absolument pas lié au nombre de fautes ou de non-fautes.
Très bien. Alors, donc, je vous souhaite bonne chance. On va
Merci
quand même
beaucoup,
continuer
Eric.
À annoncer sur notre site. Et merci beaucoup pour ce partenariat et on se reparle très prochainement. Bien le bonjour à toute l'équipe.
Avec plaisir. Bonne
journée à vous.
Au revoir à tous.
Merci à Carole Fleuret, professeure à l'Université d'Ottawa. Merci au professeur Sophia Bello. Merci à Sylvie Béra, professeure à l'Université Trent. Merci à Natacha McDonald-Dupuis. Merci à monsieur Christophe Plantiveau. Et je vous remercie tous et toutes, madame, monsieur, qui avaient appelé. Vous avez appelé, vous avez été nombreux à appeler. Et personne n'a gagné de bonnes réponses, malheureusement. Mais peut-être la semaine prochaine, qui verra. Qui verra, verra. Allez, ciao!
Consacre mon temps à mes day ones. Depuis le début, ce sont les same homies. Déconner, ouais, c'était bien le fun. Dorénavant, ce mode de vie ain't for me. On roulait dans la ville comme dans Forza. On mixe du Benadryl avec de la vodka. Jeune blanc, zéro dans la rue. Qui s'improvisait 24/7 comme un hustler.